Ce beau temps de louange a été une belle introduction à ce qu'on va entendre maintenant, du moins je le souhaite. J'ai eu à cœur de parler du pardon, et ça a déjà été abordé un peu par Sandrine et son ami Pascal. En fait, nous connaissons tous la prière de Jésus à son Père, cette prière qu'on appelle le Notre Père. Mais il nous arrive peut-être d'en oublier la clé de voûte. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, que nous commettons, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Ces paroles m'ont amenée à vraiment m'interroger sur la question du pardon, ce pardon qui est un fruit de la repentance. On est pardonné quand on se repent. C'est un fruit de notre retour au Seigneur. Mais aussi, je m'interroge sur les conséquences que ce pardon ou le non-pardon peut avoir dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent, dans notre famille, au travail, à l'église. Alors, j'ai pas la prétention ce matin de faire le tour de ce grand sujet. Beaucoup ont déjà prêché sur cela et certainement mieux que moi. Mais j'aimerais qu'on suive quelques pistes et en particulier en regardant comment le Seigneur Jésus s'est positionné, lui, par rapport à cette question du pardon. Il en est vraiment le centre. Alors, j'aborde en premier la question du pardon de Dieu. Ce pardon qu'il nous offre gratuitement, et je pense qu'on l'a tous compris, c'est ce qu'il y a peut-être de plus simple, de plus basique, et en même temps notre orgueil souvent nous empêche de le recevoir. À notre conversion, et plus tard, quand nous nous tournons vers le Seigneur pour reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, nous recevons le pardon. Il efface. Tout ce qui était avant, il passe l'éponge. Il n'y a plus. On ne peut plus retrouver la trace. Et c'est vraiment un cadeau. Un cadeau qu'on a besoin de déballer. Ce pardon, peut-être qu'au début, on réalise qu'il y a eu telle faute dans notre vie. Et puis, on demande le pardon et il efface. Et plus tard, on voit dans les profondeurs, le Seigneur va dans les strates de nos cœurs, de nos vies, de notre passé, puis voit tel autre péché qu'on n'a pas bien vu, alors il nous le montre, et puis il dit, si tu veux, ça aussi, je peux l'effacer. Et tout ça, ce cadeau, c'est Jésus. On a pris la Sainte Cène, beaucoup de chants qu'on a chantés ce matin, nous l'ont rappelé, Jésus a tout accompli pour nous. C'est cadeau. Et puis régulièrement, à travers la confession des péchés, nous permettons au Seigneur de passer cette éponge sur nos transgressions. Alors, il y a cette promesse d'Ésaïe 1:8. Nous redevenons à ses yeux blancs comme neige. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la crainte, on la teinte du sang, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Dans Colossiens, il nous est dit également, nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair, il nous a rendus à la vie avec lui, Jésus. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, et on sait par qui il a été rédigé cet acte, c'est par Satan. Il a supprimé ce document en le clouant à la croix. Le psaume 32, avec la confession du roi David et son retour après avoir fait un petit détour par Bathsheba et puis avoir surtout tué son mari Uri, Après tout ça, quand il reçoit le pardon, il est capable de dire « Heureux celui dont les transgressions sont enlevées, dont le péché est pardonné. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main, Seigneur, pesait sur moi. Alors, je t'ai fait connaître ma faute, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Je ne peux pas ajouter grand-chose à ce premier point, sauf que si parmi nous ce matin, quelqu'un n'a pas fait cette démarche de recevoir pleinement le pardon de ses péchés, c'est quelque chose qu'il peut faire et qu'on peut toujours faire et refaire. J'aimerais continuer avec une petite réflexion sur la confession. Au fil des siècles, la confession est devenue l'apanage de nos frères et sœurs catholiques. Et puis nous, chrétiens, protestants, on a décidé que nous avions un accès direct auprès du Père, dans la prière, et nous n'avions pas de témoins, besoin de témoins, et surtout ce que j'appelle les témoins gênants, à qui avouer notre péché. C'est pas facile, hein. Moi je reconnais la première, c'est pas facile d'aller voir un frère et une sœur et lui dire « J'ai du mal, il y a toujours ce péché récurrent dans ma vie, il y a toujours cette habitude qui revient, qui me colle à la peau. » Et j'ai beaucoup reçu du livre de Max Turian, qui est un des frères de la communauté de Thésée, La Confession. Et il dit dans ce livre, il y a une solidarité dans le péché et dans la foi qui fait que nous nous entraînons les uns les autres dans notre marche vers Jésus-Christ. Et en fait, quand on reste dans notre péché, on continue à marcher loin de Jésus-Christ. Et il dit, nous sommes responsables les uns des autres et nous pouvons nous aider, nous soutenir les uns les autres dans l'intercession. La confession d'une faute à plusieurs peut être le seul moyen d'arracher à Satan ses dernières armes contre nous. La confession d'une faute peut être le seul moyen d'arracher à Satan ses dernières armes contre nous. Cette confession implique essentiellement l'attente de la miséricorde de Dieu, de son pardon. Il faut simplement se préparer à cet examen intérieur et se présenter devant notre Père avec un témoin. Et là, on reçoit ce pardon. Alors, dans l'Église catholique, il parle de l'absolution, c'est-à-dire absoudre, c'est effacer, il n'y a plus de trace. Et moi, j'aime bien dire la proclamation de notre liberté. Nous sommes à nouveau libres. Nous ne sommes plus pris dans les chaînes de notre péché. Alors, le deuxième point, il y en a quelques-uns quand même, hein. Le deuxième point, c'est la nécessité parfois de pardonner à Dieu dans certaines circonstances. Je vais peut-être vous choquer. Mais pour moi, il y a des moments où, à cause de ce qu'on vit, à cause des difficultés qu'on rencontre, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, et c'est pas le film « Le ciel nous tombe sur la tête hein. ». Et c'est vrai, moi j'ai rencontré certaines personnes qui sont comme des paratonnerres. Un paratonnerre, c'est quelque chose qui reçoit la foudre, et eux, c'est comme s'ils recevaient tous les problèmes. Les problèmes familiaux, naître dans une famille désunie, les problèmes physiques. J'ai une amie qui est née dans une famille, elle a été placée, après ça a été des problèmes, la polio, la tuberculose, problèmes affectifs, elle n'était pas bien dans sa peau, elle avait été abusée, donc s'est tournée vers l'homosexualité. Ça peut être un licenciement auquel on ne s'attend pas, la mort d'un être cher, comme si rien de bon ne pouvait nous arriver. Alors on se dit, mais Dieu dans tout ça, où il est, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il permet cette souffrance? Cette grande question de la souffrance, elle nous colle. On se dit, mais pourquoi je souffre tout ça? Alors moi, j'ai réalisé que parfois, il nous faut reconnaître qu'on en veut à Dieu, qu'on n'en peut plus. Et quelque part, il y a quelque chose en nous qui dit, mais Dieu, tu ne peux plus rien là. Et quand on ose ce genre de dialogue que Dieu aime, où on lui dit tout, on lui dit qu'on en a marre, on lui dit que c'est lourd, on lui dit tout, ben là, il peut intervenir. L'exemple de Job, l'exemple du roi David, qui était poursuivi par le roi Saül, montre que ces hommes ont su parler à Dieu au sein même de la fournaise. Et là, ils ont été rejoints. Peut-être connaissez-vous l'exemple du pasteur Renevier, Michel Renevier, qui, dans un grave accident de voiture, a perdu des enfants, mais surtout aussi, ça a été vraiment très dur pour lui de perdre ses enfants, et il a été complètement défiguré. Et il a subi de nombreuses et de nombreuses interventions. Et moi, je l'avais vu quelques années après, il était encore très, très marqué par cet accident. Mais il nous avait partagé combien, à travers cet accident, il s'était rapproché du Seigneur, après de nombreux moments où il avait bagarré avec lui. Alors ce matin, si c'est nécessaire, nous pouvons reconnaître que nous en voulons à Dieu. Pour quelque chose qui est arrivé dernièrement, mais aussi quelque chose qui a pu se passer il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais qui continue à nous ronger en secret. Et ça nous bouffe, et ça nous bouffe. Alors nous pouvons revenir vers le Seigneur de tout notre cœur, parce que le désir du Père, on l'a encore vu ce matin, c'est vraiment de nous rejoindre pour nous prouver sa compassion. Le troisième point, c'est pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal ou qui nous a fait mal. Je fais la distinction entre les deux. Faire du mal, ça peut être léger, mais faire mal, ça cogne, ça rejoint quelque chose de profond en nous. J'ai toujours trouvé très étonnant la manière dont le pardon donné à un semblable et le pardon reçu de Dieu étaient étroitement liés dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce qui veut dire, si je ne pardonne pas les offenses à mon prochain, ben je reste avec mon péché et je ne suis pas pardonnée. J'ai peut-être en surprendre quelques-uns, mais pour moi, le pardon, ce n'est pas un désir, ce n'est pas un sentiment, c'est d'abord un acte de ma volonté, un choix qui va me coûter. D'une certaine manière, je suis obligée de lâcher prise face à quelque chose qui me semble légitime, auquel je tiens. Rappelons-nous, Pierre a demandé à Jésus, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il pèche contre moi ?» Et puis Pierre, il comprend quand Jésus lui dit la phrase suivante, il comprend la folie du pardon. Jésus lui dit « 70 fois 7 fois », ce qui veut dire, dans notre jargon à nous, toute la journée, nous avons des occasions de pardonner. Et il faut noter, le Seigneur Jésus ne dit pas à Pierre d'attendre quelque chose en retour, une marque de gentillesse de la part de son ennemi. Le pardon est gratuit. Le pardon reçu de Dieu, mais aussi le pardon que nous donnons. Et que l'autre me donne. Parce que ça ne va jamais dans un seul sens. Quand on a un problème avec quelqu'un, c'est souvent, quand quelqu'un a un problème avec nous, c'est souvent qu'on a un problème avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Mais ce pardon, il n'est pas seulement de moi, pauvre petite Colette, j'ai besoin d'être qu'on me rejoigne, qu'on me demande pardon. Ben non, ben moi aussi j'ai besoin de demander pardon. Et je suis convaincue que si on vivait cela dans l'Église, dans nos relations d'Église, dans nos familles, au travail, ce serait le paradis sur terre. malheureusement, vous le savez, c'est pas gagné et on est encore loin de ça. Pour moi, il n'y a rien de pire que l'amertume, rien de pire que le non-dit, rien de pire que l'agressivité larvée ou l'indifférence qui glace sur place. Un de mes frères, Louis, avait l'habitude de dire, quand j'étais jeune, et quand j'essayais de dialoguer avec lui, « Colette, tu peux toujours essayer, mais tu n'arriveras jamais à égratigner la carapace de mon indifférence. Tu peux toujours essayer, tu n'arriveras jamais à égratigner la carapace de mon indifférence. » Et je dois vous dire que malheureusement, il avait raison, et que maintenant il est décédé, et qu'on ne s'est jamais rejoint en vérité, jamais. Dans un livre que vous connaissez peut-être, « Blessures secrètes et cris silencieux », Dewey Bertolini va donner une définition de l'amertume. L'amertume est un sentiment destructeur que l'on entretient volontairement. Elle n'est donc rien moins qu'un suicide lent mais certain. La colère nous torture en nous dévorant vivants. L'amertume nous torture en nous dévorant vivants. Et il ajoute cette phrase qui me paraît extraordinaire. Le cadavre que nous dépeçons au banquet de la colère et de l'amertume, c'est le nôtre. Le cadavre que nous dépeçons au banquet de la colère et de l'amertume, c'est le nôtre. Le quatrième point, c'est demander pardon à quelqu'un que j'ai offensé. Quand je demande pardon à quelqu'un, ça le libère d'un fardeau très lourd à porter et qui l'entrave dans sa vie spirituelle. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples. Dans ma vie de couple avec Christophe depuis bientôt 7 ans, on a eu de nombreuses occasions, parce qu'on est très différents, de devoir se pardonner, sinon on se serait cassé la figure en beauté. Et puis, certains d'entre vous savent que j'ai vécu en communauté pendant 18 ans. Et quand ça s'est cassé la figure, j'ai été amenée à demander pardon à plusieurs qui avaient souffert, en particulier des gens qui étaient très très proches de la communauté, des accueillis ou des personnes qui avaient fait marche avec nous et qu'on avait blessés. Peut-être moi, mais aussi la communauté, le système communautaire dans lequel on vivait. Et ça les a libérés. Et ça m'a permis de garder des amis. Ce pardon donné, il me délivre aussi. Il me libère. Il ôte un poids de mes épaules et parfois une pierre qui était sur mon cœur depuis très longtemps. Quand on pardonne, on donne au Seigneur un nouvel accès à notre cœur et sa paix peut à nouveau nous rejoindre. Dans l'Église, nous avons ce privilège, pour moi c'est vraiment un privilège, de pouvoir faire échec à l'œuvre de division de Satan, notre ennemi commun. En fait, ce qu'il a commencé au Jardin d'Éden avec Adam et Ève, mais aussi entre l'homme et son Dieu, il essaie sans répit de le continuer au sein de l'Église et dans le monde. Alors nous avons, pour moi c'est un devoir, nous avons le devoir de ne pas le laisser gagner. Là où le Seigneur a expressément prié pour notre unité, il a dit « Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. » L'unité retrouvée, la réconciliation au sein du corps de Christ et dans nos familles, réjouissent le cœur de Dieu. Le cinquième point, il est important pour moi, il me paraît essentiel, c'est se pardonner à soi-même. C'est une vaste question. Combien de chrétiens rencontrent de nombreuses difficultés à entrer dans l'héritage spirituel qui est le leur à cause du non-pardon, à cause du fait de se garder une dette contre soi-même. Et ils appellent ça, mais c'est une faute impardonnable. Dieu ne peut pas effacer ça. Ce que j'ai fait là, c'est trop grave. C'est vrai que je travaille avec des personnes abusées, maintenant avec des personnes qui ont été victimes de violences conjugales. Je me dis, mais c'est vrai, à leur place, je pourrais me dire qu'il y a des fautes impardonnables. Et pourtant, face aux abuseurs, face aux maris violents, Dieu dit, je peux pardonner aussi, s'il y a une vraie repentance. L'exemple le plus frappant pour moi dans la Bible, c'est Judas. Et je ne peux pas m'imaginer une seconde que le Seigneur Jésus n'ait pas désiré et espéré de tout son cœur la repentance de Judas. Cette repentance qui l'aurait empêché de se suicider. Judas n'a pas pu se pardonner son geste, car ce geste avait amené l'arrestation de son sauveur. Judas, il n'était pas parfait. Il piochait dans la caisse, etc. Mais il aimait son Seigneur. Il n'a rien compris au sketch de la croix. Il ne pouvait pas accepter que le salut, ça venait comme ça. Mais il aimait son Seigneur. Sinon, il n'aurait pas mis fin à ses jours. Il serait parti dans une autre contrée. Il aurait continué. Mais là, il ne pouvait pas. C'était trop dur. Quand il a vu la souffrance de Jésus, quand il a compris que c'était par là qu'il devait passer, il n'en pouvait plus. Parce que Jésus savait bien qu'il devait mourir. Il a dit lui-même, « Ma vie, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui la prenez, c'est moi qui vous la donne. » Et là, avec Judas, il aurait voulu retrouver son disciple avant d'être cloué à la croix pour lui aussi. Lorsque nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes, Satan peut nous accuser à tel point qu'il nous coupe de la source de la vraie vie et de la réconciliation. Quand on ne se pardonne pas à soi-même, Satan vient nous accuser. Il est l'accusateur. Et il vient nous dire, Colette, Jean-Luc, Christophe et tous les autres, vous n'êtes plus en capacité de recevoir la grâce de Dieu. Et c'est ça ce qu'il vient nous dire. Il ne se casse pas la tête. Il insinue des petites choses dans notre tête, et puis voilà, c'est fini. Nous sommes alors aux prises avec de fausses culpabilités. Et ça nous entraîne sur des chemins de mort. J'ose dire le mot. Ça nous entraîne sur des chemins de mort quand on n'arrive pas à se pardonner. Tous les chrétiens n'ont pas trahi Jésus comme Judas. Mais combien aujourd'hui vivent dans la culpabilité? Et la grâce offerte par Jésus à la croix reste tout à fait inefficace. Heureusement, il y a d'autres exemples. On va quand même donner une bonne note là, dans la parole de Dieu, où des hommes ou des femmes ont saisi à pleine main le pardon offert. Moi, je pense à Pierre, après qu'il ait renié 3 fois Jésus par une nuit bien sombre autour d'un feu de bois. Et là, il dit, « Non, je ne connais pas cet homme, je ne suis pas ses disciples, dit-il après. Mais enfin, laissez-moi tranquille, puisque je vous dis que je ne l'ai jamais vu. » Après la résurrection, Jésus va prendre Pierre à part, au bord de la mer, mais surtout au bord d'un feu de bois, d'un autre feu de bois, et il va lui dire, « Pierre, m'aimes-tu ?» Et une autre fois, « M'aimes-tu plus que ceci ?» M'aimes-tu vraiment ? Pierre est attristé, mais c'est d'une bonne tristesse, de cette tristesse qui touche le cœur de Dieu. Les trois reniements de Pierre vont être recouverts par ces trois déclarations. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Les trois reniements sont couverts par ces « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Et Jésus va pouvoir redonner à Pierre sa place auprès des disciples, mais aussi sa responsabilité pastorale. Pierre, paie mes brebis, prends soin de mon troupeau, fais grâce comme je t'ai fait grâce, occupe-toi des plus petits, de mon peuple avec compassion. On peut aussi penser au cheminement de la Samaritaine, de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est une femme à tout le monde, qui passait d'une main à l'autre. Cette Samaritaine qui avait eu 3, 4, 5 maris, elle ne savait plus trop. Ces femmes avaient perdu le respect des autres, des hommes et des femmes de leur village. Et aussi, elles avaient égaré, c'est vraiment le mot, leur respect pour elles-mêmes. Et quand on ne se respecte plus, on peut en faire des bêtises. Quel changement pour ces femmes et pour bien d'autres depuis. J'ai pendant tout un temps travaillé avec des prostituées, des travestis. Moi, j'ai été émerveillée de voir comment Jésus les rejoignait. Et comment, une fois, un travesti m'a dit « Mais Colette, est-ce que je peux prendre la Sainte Cène avec toi ? J'ose pas aller dans une église. » Je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce qui me tombe sur la tête ?» On allait manger un plat de spaghettis et puis je devais prendre la Sainte Cène avec lui. Je dis « Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là ?» J'ai vraiment ressenti « Mais fais-le parce que c'est important pour lui. Fais-le parce qu'il en a besoin. » Et on a simplement pris un morceau de pain, on a pris le vin, et ça a été important dans sa vie, et dans la mienne aussi, je dois vous le dire. Comme conclusion, j'aimerais rapidement aborder la question du non-pardon. Qu'est-ce qui se passe quand on ne pardonne pas ? Quand on ne sait pas recevoir le pardon de Dieu, quand on ne se pardonne pas à soi-même, quand on ne pardonne pas à quelqu'un d'autre, alors c'est un peu comme si on considérait que l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix était insuffisante pour nous sauver, nous relever, nous restaurer au sein de l'Église, mais aussi restaurer l'autre. J'aimerais vous laisser une dernière promesse de Jésus, mais il y en a plein dans les évangiles, hein. C'est dans Matthieu 18, les versets 18 et 19. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel. Et tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans le ciel. Et par rapport à ce verset, il y a eu de multiples interprétations. Pour moi, ce matin, je voudrais simplement dire que tout ce que nous gardons lié sur la terre par le non-pardon, est gardé lié dans le ciel. Et au contraire, tout ce que nous délions sur la terre par le pardon est délié dans le ciel. Simplement terminer avec une parole reçue, c'est moi-même qui l'ai reçue, mais je m'en excuse d'avance, à notre dernière retraite, laissons tomber les jugements et choisissons l'encouragement. Pour nous-mêmes comme pour les autres, c'est important. Seigneur, je te prie de nous rappeler aux uns et aux autres ce que tu veux nous dire à travers ces différents pardons. Recevoir ton pardon est la question de la confession de certains péchés, oser te dire certaines souffrances, oser te pardonner. Quand certains traumatismes ou catastrophes ont chaviré notre existence ou celle de nos bien-aimés. Pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, lui remettre sa dette. demander pardon à une personne que j'ai moi-même blessée, volontairement ou pas. Me pardonner à moi-même, avec cette question de certains péchés qu'on dit impardonnables. La question de la culpabilité et de la grâce. Seigneur, parle-nous pour nous délivrer encore davantage. Et donne-nous d'avoir le courage de faire les démarches qu'il faut, dans l'Église, dans nos familles, parfois au travail. Merci pour ce que tu as accompli et qui est encore valable aujourd'hui à 100%. Amen.